chose, c'est que, par exemple, dans la mise en place des Fab Labs, parfois on reste sur une logique très individuelle. C'est-à-dire que les gens y vont pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'était souvent associé au slogan Do It Yourself. Avec encore parfois même une logique très consumériste, c'est-à-dire que certes je produis, mais j'y vais pour un besoin personnel. Les psychosociologues pensent par exemple que pour entrer dans une vraie démarche de transition, il faut passer d'une identité individuelle à une identité collective. Vous parlez des capacités, par exemple, je pense que Seth maintenant parle même de capacité collective, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut changer d'échelle. Alors, les Fab Labs, peut-être que. Pas, mais alors, cette nouvelle échelle finalement des Fab Labs, hein, dans le discours, j'ai l'impression que ça tend vers ça. Pour autant, est-ce que le simple fait de mettre des Fab Labs dans chaque quartier suffit à faire groupe, quoi, et à donner du sens à la cité plutôt qu'aux citoyens?
Pas forcément, hein, ce que font les porteurs du projet, c'est une espèce de pari, donc en espérant que la dynamique va se généraliser, mais de fait, oui, à ce type de risque d'individualisme. D'ailleurs, que les. Généralement, les gens qui gèrent les Fab Labs n'aiment pas beaucoup ça. Et quand on regarde comment marchent les Fab Labs, généralement, les personnes qui arrivent avec un fonctionnement plus individualiste, généralement, ils sont recadrés assez rapidement en disant « t'es bien gentil, tu utilises la machine, mais c'est pas que pour ta pomme, enfin, fais aussi profiter de la collectif. » Et ça permet de modifier des comportements qui seraient un petit peu problématiques. Sachant que dans l'exposé, j'ai traité les Fab Labs de manière plutôt homogène et agrégée, mais il n'y a pas un type de Fab Lab. Il y a différentes variétés de Fab Labs selon les porteurs des projets. Certains sont plutôt dans les logiques entrepreneuriales et proches de certaines grandes entreprises. Certains sont proches de logiques plus académiques universitaires. Et certains sont carrément militants. Enfin, voilà, celui qui est à Nice, par exemple, le Makerspace de Nice, il est carrément dans une logique militante, avec obligation de documenter chaque projet, et une logique, pour le coup, vraiment collective. Donc c'est... là, pour le coup, c'est pas chacun pour soi. Et à Nice, il y a même certains projets qui carrément ont été barrés, comme des projets de jeux vidéo. Et les personnes leaders dans le Fab Lab, enfin dans le Makerspace Nice, ont dit hors de question. Enfin voilà, nous on n'est pas dans ces logiques-là. Ce qu'on veut, c'est faire des projets qui soient utiles pour la collectivité. Donc du style, par exemple, à Nice, je ne sais pas si vous le savez, hein, il y a des espèces de loupes grossissantes qui existent pour permettre aux déficients visuels de lire des petits caractères de livres. Voilà, vous posez l'objet sur une feuille et par un système de loupe et de lentilles, vous avez le texte qui est grossi. Ce type de dispositif est remboursé par la Sécurité sociale. Sauf que c'est devenu un business et que les entreprises qui mettent ce type de produit sur le marché font une marge qui est très conséquente, voilà, qui est même plus que conséquente. Puisque ce qu'ont remarqué les gens du Fab Lab niçois, c'est que quand on désosse ce type de produit, qu'on s'amuse à le refaire soi-même, ça coûte quasiment rien, quoi. Et la marge, elle est énorme. Donc ils se sont dit, on reprend ça, on va le refaire nous-mêmes, en expliquant comment on peut le faire soi-même, on va documenter ça, et puis en le mettant disponible dans l'open source à la collectivité. Et ça, c'est la version effectivement extrêmement unique.
Oui.
Je me demandais, vu que Barcelone, c'est un haut lieu des mouvements alternatifs, quel était le lien de ces Fab Labs, de ces Green Fab Labs, avec les autres initiatives comme, je pense à CommonsDeo, qui essaie aussi de créer d'autres formes de produire la ville, d'autosuffisance, de formes de vie collective. Et du coup, comment est-ce qu'ils étaient liés? Comment? Parce que là, les Fab Labs ont l'air d'être très très liés aux institutions, notamment... être assez soutenu par la municipalité, d'être directement institutionnalisé, d'être reproduite à Paris, etc. Alors que les lieux comme CommonsDeo ont l'air d'être plutôt en tension et sont davantage dans des logiques conflictuelles avec les municipalités. Je me demandais du coup comment ce type d'initiative se parler ou au contraire être en concurrence ou en conflit.
Pour être franc, j'ai pas fait ce type de travail de sociologie de terrain, de relations entre les différents acteurs. Pour ce que j'en ai vu, effectivement, ça peut paraître curieux, mais oui, il n'y a pas de lien relativement marqué avec les autres Fab Labs. Et je ferai volontiers l'hypothèse que c'est parce que le Fab Lab de Barcelone dont je parlais, une réputation d'être un peu élitiste, voilà, ils ne sont pas complètement en circuit fermé, mais quand vous allez au Fab Lab de Barcelone, vous n'y rentrez pas comme ça, il faut montrer un petit peu pas de blanche. c'est pas, voilà, même si c'est censé être ouvert sur l'extérieur, il y a quand même une forme de fermeture qui est marquée plus que symboliquement. Et de fait, c'est un peu le reflet de ce que vous disiez, où les relations ne sont pas aussi développées qu'on pourrait le penser. Après, je n'ai pas fait le travail d'enquête de terrain sociologique qui me permettrait d'aller au-delà des hypothèses.
Mais peut-être pour info, le quartier justement où est créé ce Fab Lab, c'est un quartier historiquement où justement il y a eu des conflits entre ce quartier Poblenou qui a été un quartier qui a été, on va dire, rasé pour une bonne part, au moins au tiers, de manière conflictuelle parce qu'on a rasé en fait des logements sociaux qui étaient historiquement très implantés. Il y a une usine qui a fermé ses portes, qui avait été habité par toute une série d'entreprises alternatives, de gens alternatifs, etc. Et en fait, il y a eu des gros conflits à l'époque, d'abord pour sauvegarder ce quartier qui était en train de se faire raser morceau par morceau par la municipalité précédente, et contre aussi le premier, ce dont tu parlais tout à l'heure, le 22 arrobas, qui était un peu le fleuron de la Smart City, qui s'est implanté juste à côté en fait, de ce quartier. Donc il y avait vraiment une opposition, une conception vraiment très différente entre justement ces luttes qui étaient menées à Poblenou, qui ressemblaient un peu à Cannes-Mazdeu, contre justement cette Smart City. Et je pense quand même que l'échec de la Smart City de 22 là, est lié aux luttes qui ont eu lieu dans ce quartier de Poblenou. Et je pense que le changement de braquet vers la Fab City, même avec toutes les difficultés que tu évoquais, je pense que c'est aussi tributaire des luttes qu'il y a eu dans ce quartier-là. Il y avait une question qui était juste derrière.
Oui, alors c'était plus en rapport à ce que vous disiez. Je m'appelle Dorsilet, je suis doctorant en économie au Saint-Gobain. Et donc en fait, sur le Fab City, en fait, dans tous les cas, enfin, on discutait, on peut avoir des cadres un peu plus militants ou un peu plus élitistes. Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de créer un coup d'entrée qui finalement tue un peu... Alors d'après ce que j'ai compris dans votre exposé, il y a plusieurs objectifs à ces Fab City qui sont pas très bien, pas très bien séparés les uns des autres. Mais si vous voulez, il y a un peu cet objectif, on va dire, de recréer une sorte de lien social, de proximité. Et à ce moment-là, il faudrait éviter en fait ce genre de coup d'entrée, parce que alors après on peut proposer aux gens, une fois qu'ils sont sur place, une fois qu'ils ont finalement un intérêt à venir, des opportunités de participer à des projets pour la ville ou quoi que ce soit, mais à ce moment là il faut quand même laisser un coup d'entrée qui soit quasi nul pour que les gens puissent venir. Et après il y a l'autre problème de la question de l'autosuffisance, et là dessus j'aurais aimé savoir un peu plus précisément qu'est-ce que vous entendiez par autosuffisance, je suppose qu'en fait c'est... Enfin, j'arrive pas à voir très bien ce que vous entendez par autosuffisance. Parce qu'en
c'est
fait, ça.
C'est pas moi l'interview.
Ah oui, mais non, mais bien sûr, mais enfin, ce que dans les Fab Cities ils entendent par autosuffisance. Parce qu'en fait, ce terme est extrêmement fort, en fait. Et je pense qu'il est utilisé de manière un petit peu abusive. Enfin, c'est pas parce qu'on va remplacer un moteur ou une partie de sa machine à laver qu'on va atteindre une autosuffisance à Paris. Enfin,
Mais de fait, il n'est pas complètement défini par des... Voilà, c'est plus une espèce de slogan. Et le travail de définition n'a pas été fait complètement. Même que quand ils parlent d'économie circulaire, ils n'en ont pas tiré toutes les implications. Parce que si on voulait raisonner... tirer de l'ensemble des fils de ce que c'est que l'économie circulaire, ça pourrait aller jusqu'à aller à reconcevoir le design des produits. Parce qu'avant de prétendre réutiliser ou recycler, mieux vaut penser d'emblée le design. Et ils ne sont pas encore allés jusque-là. Donc il y a toute une série d'applications en fait, qui restent à la surface. Ils ont commencé à gratter, mais par rapport à ce qu'on connaît de la littérature académique qui a vraiment réfléchi sur le métabolisme urbain, sur l'économie circulaire, ils n'ont pas encore complètement avancé au stade où on est une partie de la littérature académique. Et de fait, sur l'autosuffisance, comme je le disais, on est plus à l'état de slogan plutôt qu'une réflexion de fond sur toutes les applications de ce que serait l'autosuffisance. Voilà. Mais c'est un processus qui est en cours. Enfin, voilà, le projet est relativement récent. Enfin, c'est moins de 10 ans, hein, si on refait l'histoire sur la totalité de la chose. Sur la première question...
Peut-être qu'on va juste regrouper quelques questions. Ouais. Elles commencent à s'accumuler. J'ai peur qu'après, on soit débordé.
Ça va vraiment dans la même veine. En fait, le projet Smart City, c'est un projet quand même très totalisant. Oui. Là, c'est vrai que ce que j'entends là, c'est un projet c'est un, comme on disait, c'est une petite pierre, le Fab Lab, ça voilà. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur les prochaines étapes ou sur justement les autres leviers à tirer, la relation avec le mouvement social ou d'autres initiatives qui feraient que c'est censé prendre, entre guillemets, l'ampleur? Parce que là, tel qu'on le voit là, même si c'est nouveau et tout ça, on n'a pas l'impression qu'effectivement, il y ait un objectif vraiment aussi vaste, en fait, que la Smart City. Et du coup, juste la question, c'est est-ce que ce sont eux qui se disent être vraiment un modèle alternatif à la Smart City? Est-ce qu'ils le disent comme ça? Et voilà, quels sont leurs éléments pour se définir comme tel?
On va passer à la question d'un côté.
Oui, moi, j'ai écouté en essayant de transposer tout ce que tu disais sur le cas de Nantes, qui se présente aussi comme un modèle pour d'autres phénomènes. Bon, le calage, il est assez fort. Après, je trouve que, évidemment, ce qui manque, et je pense que ça, je trouve qu'il y a intérêt à envoyer des gens à faire ce travail d'observation, c'est de voir effectivement comment ça se passe. Moi, je connais un peu les animateurs, en fait, de ce Fab Lab, l'association Ping, qui a aussi piloté depuis Nantes les réseaux de Fab Lab dans les Pays de la Loire. Et je les vois comme des personnes sur la durée, en fait, pour elles-mêmes et puis dans leurs relations avec d'autres mouvements, ont montré les contradictions. C'est-à-dire que c'est un haut lieu pour observer des contradictions, par exemple, entre le projet métropolitain et le Fab Lab lui-même. Du coup, la manière qu'ils ont eu de se connecter à d'autres choses, par exemple de ramener la question de la culture urbaine dans le Fab Lab, ce qui n'était pas évident au départ, de se raccorder à d'autres lieux, comme la ZAD, ou des lieux comme ça. Alors, en mode un peu discret aussi, parce qu'en même temps, ils sont soumis à des financements, ils sont soumis au public, et du coup, il y a aussi ces contradictions de commandes. Voilà, et puis ma deuxième question, c'était sur le fait que le Fab Lab, finalement, il concentre l'imaginaire numérique, alors que finalement, dans n'importe quel atelier qui s'ouvrirait dans la ville, atelier vélo, repère café, camp climat, je ne sais pas quoi, en fait, le numérique, il est partout. Sauf que là, tout d'un coup, il est un peu concentré, en fait. Mais notre atelier de ce jour, il est profondément numérique aussi. Voilà, et du coup, c'est cette idée que le numérique, il est partout. Donc, du coup, quelle est la plus-value numérique, en fait, du Fab Lab par rapport même à un truc low-tech comme un atelier vélo qui fonctionne avec des listes de diffusion, avec des trucs qui circulent, des plans, des...
Dernière question, et puis après on fera la deuxième tournée. Donc tu n'auras pas énormément de temps pour répondre, mais...
Oui, moi ce qui m'a... vous parliez de réflexivité, que c'était un point intéressant de ce mouvement. Je voulais savoir, selon vous, jusqu'à quel point ce groupe construit autour des Fab Labs mène une réflexivité sur sa propre activité. Et notamment, je me demandais sur... puisqu'ils ont cette idée peut-être pas explicite de métabolisme, est-ce que derrière, il y a des réflexions sur utiliser les technologies de l'information et de la communication, c'est pas que de l'immatériel, il y a aussi d'autres flux matériels avec ces machines qui ont l'air assez sophistiquées, même les panneaux solaires qui sont sur des matériaux assez rares et qui posent des problèmes de pollution. Et aussi sur, au-delà des flux de matière, sur l'intégration dans des flux, peut-être dans des réseaux, des interactions avec peut-être les décideurs justement politiques et économiques, comment ils perçoivent justement leurs collaborateurs, leurs échanges avec des enseignes comme IKEA ou avec les autorités municipales. Est-ce que ça représente une petite partie de la politique publique urbaine de Barcelone? Est-ce qu'ils ont une réflexivité là sur ces deux points?
Merci. Donc si tu essayes de regrouper un petit les questions pour répondre de manière plus... tu nous fais une petite synthèse, tu vois.
D'autant pour revenir à la question des coûts d'entrée, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous entendiez par coûts d'entrée. C'est coûts d'entrée par rapport à la maîtrise des technologies, c'est ça?
C'est par rapport à ce que vous disiez sur le fait que quand on est sur des espaces comme Nice qui sont assez limitants, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir participer à un projet le concept de coût d'entrée. Dans le sens où on ne peut pas venir comme ça dans le Fab Lab, faire son projet. Il y a un certain nombre de process à suivre.
Oui, 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 je comprends mieux. Enfin, oui, c'est pas tellement un coût au sens économique du terme, c'est une forme c'est une forme de socialisation préalable avant de pouvoir se greffer sur un collectif, si j'ai bien compris. De fait, oui, dans le cadre du Fab Lab niçois, par exemple, avant d'y aller, on se présente, notamment par la liste de diffusion, et on prend contact. Donc c'est pas je me pointe et tout de suite je fais quelque chose. Il y a une forme d'acclimatation par rapport au collectif qui existe déjà, qui est très soudé au départ, qui souhaite conserver pour le coup sa logique militante, et qui peut être parfois un peu réticente ou moins réceptive par rapport à d'autres gens qui arriveraient avec d'autres optiques. Et ça se voit notamment dans les liens avec d'autres Fab Labs locaux, où ils peuvent manifester des formes de divergence, des formes de désaccord. Sur la question du modèle, oui, il y a une prétention presque, alors même si c'est pas formulé comme ça, mais dans la manière dont il fonctionne, il y a cette espèce d'ambition de présenter quelque chose d'alternatif par rapport à d'autres modèles. Et pour ce qui est des étapes ou du processus, on en est pour l'instant au tout début, donc ils ont posé le cadre général, celui des principes, et là ils en sont à ce qu'ils appellent la partie prototype. Donc en prenant Poblenou comme une forme de prototype, en prenant un certain nombre d'expérimentations ponctuelles comme des formes de prototype. Donc le cadre général, les prototypes, pour l'instant on est là, quoi. Donc avec l'idée d'expérimenter les grandes idées sur le terrain relativement localisé. Et de fait, pour l'instant, les Athénéos de fabrication, ils ne sont pas encore à 10 districts, hein, ils sont dans quelques districts. Et voilà, on en est. Puisque évidemment tout cela coûte de l'argent, même si la mairie de Barcelone commence à mettre un petit peu de subvention, il y a un coût, pour reprendre le terme, qui est non négligeable. Sur la question des relations avec les acteurs tiers, il y a une forme de conscience, oui, qu'ils sont obligés d'entamer des relations avec d'autres acteurs. Je parlais effectivement d'IKEA. Il n'y a pas forcément d'a priori négatif vis-à-vis du monde des entreprises. Ils se rendent bien compte qu'effectivement, ils ne peuvent pas fonctionner dans un milieu communautaire associatif et qu'il faut nouer des contacts et intéresser un certain nombre d'acteurs. Donc, ils ont commencé par IKEA, parce qu'effectivement, IKEA est très sensible aux questions de design, ou en tout cas manifeste une forme de sensibilité à un certain nombre d'enjeux. Évidemment, pas de manière désintéressée, comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, ça a été dit sous forme de boutade, mais ce qui intéresse probablement IKEA, c'est de transformer le consommateur en producteur de...
C'est déjà fait.
Donc, et Thomas Dis, dont je parlais tout à l'heure, effectivement, est peut-être un petit peu naïf par rapport aux intérêts de ce type d'entreprise. Donc pour lui, ça lui paraît positif d'arriver à intéresser. Avec un regard plus extérieur que le mien, je ne suis pas sûr que... Voilà. Et si on prend le cas de Paris, il y a des formes d'hybridation des discours et des rhétoriques et des pratiques qui peuvent poser question. Et on se demande dans quel sens s'est tiré le projet s'il ne perd pas de son... d'originalité de départ et pour être tiré vers d'autres aspects qui sont plus ceux qui étaient originaux.
Alors il y avait là.
Peut-être essayer du temps. Ouais. C'est à gauche, les deux.
On va commencer par mademoiselle.
Alors je vais essayer d'être rapide. À vous entendre, on s'interroge quand même sur la dimension transformative des Fab City, et notamment je m'interrogeais sur la part que représentait ce projet dans la politique de la municipalité. Alors ok, on entend le fait qu'il y ait des subventions qui soient attribuées, mais quelque part, est-ce que c'est pas juste l'effet de mode? Chaque ville, pour être moderne, doit avoir son Fab Lab, son tiers-lieu, comme il y a eu la Smart City à un moment avant. Et est-ce que dans 5 ans, on ne va pas passer à autre chose? Et là aussi, il y aura quelques subventions, mais ça ne va pas réinterroger le fonctionnement et la politique de la municipalité. Et deuxième toute petite question, c'était est-ce qu'il y avait un lien qui était fait avec le mouvement des villes en transition?
Non.
30 secondes.
Et même le terme de transition apparaît assez peu. C'est pour ça que le lien que j'ai fait, en fait, c'est moi qui le fais, ce n'est pas tellement les acteurs eux-mêmes indigènes. Sur la première question, de fait, le projet n'était pas porté par Ada Colau, enfin, qui est arrivé récemment, mais elle n'y a pas mis d'objection, et elle s'est dit pourquoi pas, enfin, ça cadre avec plutôt son optique qui est plus progressiste, donc elle y a vu un intérêt de poursuivre le projet tel qu'il avait été lancé, d'autant qu'il y avait quitté notre aspect sur lequel je voulais revenir.
Obsolescence programmée.
Oui, voilà, dans 5 ans, on va avoir un nouvel effet de mode, je ne sais pas si c'est sûr.
Oui, oui, enfin, oui. De fait, effectivement, oui, c'est un peu le principe de pourquoi pas. Enfin, c'est effectivement, ça colle avec l'air du temps. Pourquoi ne pas se greffer sur un projet qui est déjà lancé et qui peut présenter un certain nombre d'intérêts, d'autant qu'effectivement, Ada Colau est plutôt réceptive sur l'aspect communautaire, mobilisation citoyenne. Et il y a même rajouté une couche en embauchant, alors j'ai oublié le titre exact, une dame qui s'appelle Francesca Briga, qui est une spécialiste des questions de numérique, et elle y a greffé ce qui était plutôt une marotte personnelle sur les questions de réappropriation des données. Donc ils ont, j'ai oublié le nom, je suis désolé, du service qui s'occupe de la question de la gestion des données informatiques et des questions informatiques. Mais la politique d'Ada Colau a consisté à regreffer la question de l'appropriation des données par les citoyens sur les questions de la privacy. Et ça fait partie du boulot de Francesca Briga de réintégrer cette question de maîtrise des données, de ne pas tout laisser à Google, enfin la problématique classique, de ne pas tout laisser à Google ou Facebook, mais faire en sorte que les citoyens barcelonais puissent mieux gérer ces données.
Alors on va avoir trois intervenants qui ont des questions à poser chacun. Donc c'est à vous.
Oui, je veux bien être court, juste parce que en fait, ce que je voulais souligner, c'est que je trouve la question très importante tout à l'heure sur l'action collective et son lien avec ces initiatives qui viennent du haut, même si c'est d'un haut local. Et je trouve, avec les collègues de l'IDRI qui travaillent sur les questions de ville et numérique, sont avec la FIN, parlent de la ville numérique réelle, en disant qui sont les communautés d'action collective qui utilisent le numérique en ville, plutôt que de voir quelles sont les propositions qui sont faites d'en haut. Pour essayer de montrer qu'il y a une différence entre la Smart City telle qu'elle est imaginée et ce qui se passe en bas. Effectivement, dans les travaux qu'on a vus, il n'y a pas grand monde qui répond aux propositions numériques de la ville de Paris. Il n'y a pas non plus d'autres choses très marquantes en termes de représentativité statistique qui viennent d'en bas, mais il y a des choses qui se passent sur des applis qui viennent du bas, par exemple sur le vélo, qui est un truc déjà un peu spécifique. On a vraiment cette dialectique entre l'action collective du bas et celle de... Et on avait aussi cherché avec Nathalie Blanc à essayer de comprendre quelle était la trace numérique des assos de la pleine commune qui travaillent sur l'agriculture en ville, et on la voit pas. Et donc cette capacité d'action collective à entrer sur le numérique ou à peut-être pas vouloir être vue sur le numérique, il y a des choses vraiment intéressantes à travailler là-dessus, je trouve, en face des propositions qui viennent plus organisées.
Bernard ?
Rapidement, dans le même esprit, simplement, voilà, on trouve là un peu des choses qu'on avait évoquées dans la discussion qui avait suivi mon topo, quoi, sur le cadrage et puis favoriser le bottom-up. Bon. Simplement, je m'étonnais après sur le réseau là, qui se constitue, 16 villes, puis des régions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Kera, la région occitane, enfin, tu dis derrière ça, c'est une façon de repenser la ville, ses réseaux, les flux et les relations de la ville avec l'extérieur. Tout ton dido, c'est in-out. Enfin bon. Là, c'est vrai que la région Occitanie, en gros, on devrait pouvoir être autosuffisant. À part les bananes, on peut même se construire des avions, quoi. Hein. Le Kerala, non, qu'est-ce que ça veut dire à cette échelle-là ? Enfin, c'est forcément pas la même construction, c'est forcément pas. Voilà, quel terme de référence on met un minimum pour pas, à la limite, dans le sens-là, dévoyer l'idée ou le concept, quoi, puis que du coup ça devienne n'importe quoi, avec des congrès mondiaux où se retrouvent les maires de ville et les présidents de région, qui sont le Kerala, ça doit être la moitié de la France ou le tiers de la France, bon, c'est pas la même chose que Marseille. Plus grosse ville qu'une métropole, tu as dit métropole d'ailleurs, bon, et on voit bien que c'est métropole qu'il y a derrière ça, c'est pas Montauban qui va se faire ça, mais bon, voilà, il y a des...
En effet, je pense qu'ils n'y ont pas réfléchi.
Il y a une troisième question, c'est ça, non ?
C'est Francis qui voulait poser une question.
Non, mais bon, ça sera rapide. Non, je veux savoir si tu connaissais le travail de François Huquet, qui travaillait sur Détroit, il était assez visionnaire parce qu'il l'a fait bien en amont de toutes ces... cette formalisation, justement, du...
Comment tu écris ça ?
En fait, UGE, je pense, UGET, il était financé par Orange Lab. Mais, en gros, il a travaillé sur, justement, l'émergence après la destruction de la ville par la crise, notamment l'industrie automobile, bien sûr. Comment, en fait, des quartiers se sont auto-organisés et ont construit, justement, des réseaux. Alors, leur réseau, c'est-à-dire c'est peut-être ce qui intéressait Orange, d'ailleurs. Comment ils sont capables de construire un réseau Internet sans passer par les opérateurs, etc. Donc voilà, donc c'est intéressant parce qu'il le fait justement. Et ça, ma question vient derrière, c'est une question très classique. Tu peux répondre oui, non, ou ne pas répondre.
Je pense que
l'arrivée d'un observateur un peu distant, évidemment, pose le problème par rapport à ce genre d'objet qui est quand même lié à un réenchantement d'un moment ou d'une autre. Et où donc le regard un peu objectivant ou catégorisant, etc. Et est-ce que ça, bon, je ne sais pas où tu en es dans la remise en circulation, ou est-ce que tes acteurs vont lire, ont lu des drafts, ou comment ça se passe? Il n'y a pas justement une espèce de tension qui émerge du sociologue, du politologue, du social scientist, qui va justement un peu désenchanter ce qui était en train de se réenchanter?
Pour l'instant, ce que j'ai présenté n'a pas circulé, parmi les premiers, on l'a dit. Donc je ne sais pas. D'autant que j'écris en français, je suis
pas... On est flatté.
Oui, enfin... C'est bon. Peut-être qu'il y aura ce type d'effet...